Radio G 101.5 FM.
Le manche disque. L'émission qui tourne à 33 tours minutes.
Bienvenue chers auditeurs, c'est le manche disque, l'émission qui vous fait manger du disque vinyle sur Radio G. Julien et Nico au micro, ce soir on vous embarque pour quelques tours de platine avec du son rock, pop et groovy. On va parler de deux grandes rivalités musicales, si ce n'est les plus grandes du XXe siècle. Et on terminera comme d'habitude par l'interview d'un nouvel et remarquable invité, passionné qu'il est du disque vinyle. Le manche disque, émission 13, l'émission porte-bonheur. C'est sur Radio G et ça commence maintenant. Oh yeah, c'est bon ça.
Atomic Rooster, le titre Decline and Fall. À la base, ce titre est sur le premier album du groupe, l'album qui s'appelle Atomic Rooster, qui est sorti en 1970. Mais moi, j'ai eu le plaisir de récupérer une jolie petite galette polonaise des éditions Polskie Nagrania Muza de 1975, intitulée Atomic Rooster aussi, mais qui est une sorte de best-of des tout premiers albums de ce groupe rock britannique, actif d'abord de 1969 à 1975, puis une brève période de 80 à 83, puis depuis 2016. Alors il y a eu beaucoup de changements de line-up, d'ailleurs il n'y a plus que deux membres du groupe original, mais voilà, Atomic Rooster, j'avais envie de vous passer un peu un morceau de cette formation qui, dans l'Angleterre de la fin des années 60, a contribué à cette espèce de vague énorme de rock un peu heavy, qui est surtout dans l'ombre de Led Zepp et de Black Sabbath, mais qui vaut le coup. Et il existait à l'époque pléthore de groupes dont j'aurais plaisir à vous reparler, et notamment en évoquant une double compile en CD, mais voilà, ça me fera plaisir à l'occasion de vous en recoser.
Ah ouais, bah avec plaisir, pour démarrer une émission, c'est vraiment idéal. Voilà une émission donc numéro 13 qui commence bien. Donc maintenant à mon tour. Donc moi je vais être en mode un peu opposition ce soir, comme je le disais, je vais vous parler en fait de grandes rivalités du XXe siècle. Mais autant le dire tout de suite, si à l'annonce du sommaire vous avez flairé l'odeur du sang et de la guerre, vous allez être déçus parce que, messieurs dames, je viens en paix. Voilà. Et oui, j'ai prévu de vous passer l'un après l'autre des morceaux des deux rivaux de la musique du XXe siècle, mais c'est pour mieux dénoncer en fait la superficialité des oppositions et des guéguerres qui sont souvent créées à des fins marketing en fait, par des maisons de disques, parfois entretenues par les artistes mêmes, mais surtout par les médias en quête de buzz, enfin bref. Le premier exemple, c'est sans doute l'opposition la plus classique et sans doute la plus commentée de l'histoire, j'ai nommé celle entre les Beatles et les Rolling Stones, bien sûr. Donc sans doute les deux plus grands groupes de l'histoire du rock, ces talentueux boys band du rock ont déchaîné les passions dans les années 60, provoquant des réflexes partisans encore palpables aujourd'hui. Il n'est pas rare qu'au détour d'une conversation, il y ait des débats sur quel est le plus grand groupe.
C'est quasi le passage obligé de chaque interview rock, d'ailleurs Rock and Folk, quand dans la rubrique Mes disques à moi, pose sempiternellement cette question.
Voilà, bon, j'ose croire quand même qu'il y a du second degré, parce que c'est vrai que quand on s'est intéressé de près à ces deux groupes, on n'a pas vraiment envie de les opposer en fait. On a plus envie d'en profiter, de croquer dans chacun de leurs albums et morceaux avec gourmandise. Donc ne perdez pas d'énergie, vous chers auditeurs, à essayer de départager l'audace, l'avant-gardisme des Beatles, moi je dirais ça comme ça, et puis la fougue ancestrale du rock'n'roll blues des Stones. Appréciez plutôt, réjouissez-vous tout simplement. Voilà. Donc en 1965, parce que maintenant je vais quand même vous parler un petit peu des morceaux que je vais passer l'un après l'autre. Donc les Beatles, ils signent l'album Rubber Soul qui inaugure pour moi leur meilleure période, à mes goûts personnels. Celle des expérimentations géniales dans leur musique, comme dans leur conscience d'ailleurs, à l'image de la chanson The World, que je vais vous passer tout de suite, écrite par John et Paul, en partition multicolore, en fumant de la marijuana. Voilà. Ils ont précisé quand même qu'ils n'avaient pas coutume de composer, de travailler sous influence, parce qu'en fait, ils se trouvaient parfois en plein trip, en train de se dire « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» ou le lendemain, ils ne se rappelaient plus de rien. Donc, ils ont jugé que ce n'était pas le plus productif des méthodes. Mais en tout cas, celui-là, voilà, ils l'ont fumé un peu stone. Et deux ans plus tard, viendra l'album Between the Buttons des Stones. Là encore, ma période préférée du groupe, où Brian Jones se distingue au sommet de son art, intègre des instruments inhabituels dans le rock. Et il est aussi au sommet de son sex appeal, puisque la chanson que je vais vous passer, qui s'appelle Miss Amanda Jones, elle fait référence, ça c'est pour le côté potin, mais pas que, parce que ça donne naissance à un morceau quand même. Elle fait référence à une liaison de Brian Jones et notre Amanda Lear nationale. Voilà, c'est parti pour cette première opposition, mais qui en fait est une fusion. The world of love. In the beginning,
Manche Disque sur Radio G 101.5. Le premier des deux oppositions marketing entre deux grands groupes légendaires.
Ouais, j'ai essayé de pas taper dans les morceaux trop classiques, trop connus, plutôt des morceaux, on va dire, un peu face B de chaque album, mais il me semblait illustrer la différence de style qui fait que chacun dans son domaine, c'est excellent. Donc,
évidemment.
Donc ça fait la complémentarité aussi représentative de cette époque.
Exactement.
Avec quoi qu'on enchaîne, Julien ?
Avec Clifford Coulter. Donc je vais vous passer un morceau de ce guitariste et claviériste américain de blues, R&B et jazz. Il a sorti 3 albums en 70, 71 et 80. Je vais vous passer un morceau de l'album East Side San Jose qui est sorti chez Impulse en 1970. En compagnie notamment du virtuose Mel Brown, il évoque la ville de San Jose tout au long du disque avec des lieux emblématiques pour lui et pour son histoire sans qu'il détaille davantage. Après, il faut se pencher sur les paroles. Et là, j'ai envie de vous passer le morceau Alum Rock Park. Coulter dans le manche disque sur Radio G, Alum Park Rock.
Et ça se trouve facilement, ça, comme vinyle ?
Oh, je ne crois pas. Il est plutôt coté. Alors, quand je dis plutôt coté, il ne vaut pas des millions non plus, mais il se trouve. Enfin, si vous le trouvez en vide-grenier, prenez-le. Hein. Moi, je l'ai trouvé dans ma petite boutique Rochelaise préférée, dont je tairai évidemment le nom et l'adresse, ne voulant pas la partager.
Ça, c'est comme la cueillette aux champignons, ça.
C'est exactement
ça. On ne donne jamais ces coins, là, où on cueille les bons vinyles, là. Bon, et bien à mon tour maintenant, deuxième et dernier volet de la soirée, hein, de la mini-série du soir Les Grands Rivaux de l'Histoire de la Musique. Cette fois-ci, on va quitter le rock pour l'univers de la pop music. Et ça y est, une fois que j'ai dit pop music,
Chantal Goya.
Tout à fait, il y a des silhouettes qui se dessinent déjà dans vos esprits. Les amis, je vais vous passer à suivre un titre de Michael Jackson et de Prince. Voilà, les deux grands rivaux aussi des années plutôt 80, on va dire. Alors, s'il est vrai que ces deux-là se sont partagés donc une bonne partie de la vente des disques, d'ailleurs, il n'est pas rare d'en trouver, enfin, surtout du Michael en fait, en vide-grenier. Mais on peut trouver aussi certains Prince, et on va pas oublier quand même de citer Madonna, je voudrais pas qu'on me traite de sexiste, donc Madonna à cette époque-là tirait fortement, elle n'était pas en reste, elle tirait fortement son épingle du jeu, mais bon voilà, il en fallait en choisir deux, Michael et Prince, et que donc du coup ils sont sans doute tiré la bourre, vu qu'ils étaient tous les deux au top des charts, et puis en plus avec leur ego respectif surdimensionné. Là encore, bon, il est à noter une certaine différence de nature de leurs œuvres, qui ouvre la porte, comme les Beatles et les Rolling Stones tout à l'heure, à une certaine complémentarité entre les deux. En tout cas, à mes oreilles, c'est la lecture que je vous propose là de ce soir. Alors, si Michael Jackson, pour moi, s'est incontestablement imposé comme le roi de la pop, il s'est autoproclamé comme ça, en s'entourant des meilleurs, notamment Quincy Jones, et en naviguant avec brio sur les courants musicaux successifs en vogue dans les années 80 et 90. Prince, lui, en article complet, jusqu'à l'autoproduction même, a toujours su adapter des racines plus ancrées dans la black music originelle, mais tout ça mis à une sauce de son époque. Ça a été ça son grand génie. Impossible pour moi de trancher entre ces deux-là, vous l'aurez compris. D'ailleurs, je le répète, inutile de trancher, juste apprécieux. Et pour ce faire, je n'ai pas voulu vous passer une énième fois leur hit genre Billie Jean et Kiss.
Non.
Un peu comme les Beatles et les Stones, il y a quand même à boire et à manger dans leurs œuvres, donc c'est un peu dommage de choisir toujours les mêmes morceaux qui passent, quoi. Et j'ai préféré d'ailleurs les juxtaposer dans un exercice qui n'est pas effectivement instinctivement associé avec leurs chansons, l'exercice de la ballade ou de la chanson de lover, comme vous voudrez. Donc on va s'écouter. Par contre, oui, j'ai quand même pioché dans des albums qui me semblent vraiment significatifs. Donc Michael Jackson, j'ai pioché dans Thriller, forcément son album le plus vendu et un des disques. Enfin, très longtemps, le disque le plus vendu même. Donc, c'est celui que vous trouverez beaucoup sur les vide-greniers. Et chez Prince, c'est un petit peu plus difficile de choisir, mais j'ai choisi quand même Sign of the Times comme album. Et donc, les morceaux pour Michael, ce sera The Lady in My Life. Et pour Prince, ce sera Slow Love, à suivre l'un après l'autre.
is a night we won't forget. Girl, I need your sweet caress. Oh, I reach out to a fantasy. Two hearts in the beat of ecstasy. Come to me, girl, and I will keep you warm through the shadows of the night. Let me touch you with my love. I can make you feel so right. My life. Stay with me. I want you to stay with me. I need you from my side.
For a hundred times wouldn't be enough.
C'était la minute, enfin la plus qu'une minute d'ailleurs, love de l'émission. Ouais. Il en faut.
Là, il y avait le temps d'emballer là quand même.
Voilà, ben, on espère que ça a fait des couples, des enfants peut-être issus du manche disque. Ce serait carrément.
Bon, rendez-vous dans 9 mois, téléphonez-nous.
Téléphonez-nous, oui, et postez vos photos de naissance sur la page Facebook du manche disque. Bon, c'est toujours le manche disque, c'est sur Radio G, Julien et Nico.
Ouais, on reste dans les années 80, quoique un tout petit peu avant, je triche. Je vais vous parler d'un album sorti en 1978. 10 Years Model de Elvis Costello. C'est le deuxième album du musicien et chanteur anglais sorti chez Radar Records. Là, j'ai eu envie de vous passer un morceau que j'ai découvert grâce à l'excellente série de chez HBO, The Deuce. C'est une série en 3 saisons qui se déroule dans le New York des années 70 puis 80 autour du petit monde de l'industrie pornographique, de la prostitution, des pipe shows, etc., etc. L'originalité, entre autres, de cette série, en plus d'être excellente, c'est que le générique change à chaque saison. Pour la saison 1, c'était Curtis Mayfield avec Don't Worry If There Is a Hell Below, We're All Going To. La saison 3, ce sera Dreaming de Blondie. Et moi, je vous propose d'écouter le générique de la saison 2, ou presque. Parce que, pour le besoin de la série, ils ont fait une sorte de duo virtuel, comme le faisait je sais plus quelle radio dans les années 90, en faisant réenregistrer le morceau de Elvis Costello et en y ajoutant Nathalie Bergman des Wild Bell. Là, je vous propose d'écouter le morceau original, 10 Years Girl de Elvis Costello. We'll be right back. Elvis Costello sur le manche disque 101.5, This Year's Girl.
Et voilà un morceau qui donne envie de regarder The Deuce.
Mais regardez, c'est très important.
Oui, en tout cas, ta description était très alléchante, hein, si tu me permets l'expression.
Maggie Gyllenhaal, James Franco qui joue un rôle de jumeau, comme je te disais hors antenne, et des reconstitutions de rues de New York et de la 42e, fameuse 42e rue, à couper le souffle.
Et de la super musique.
Et de la super musique, ouais, notamment dès qu'on est dans le bar du personnage de Abby, c'est toujours du post-punk, du punk, du rock, etc.
Et ben pour ceux qui ont la chance d'avoir HBO, n'hésitez pas. Moi, je vais essayer de trouver une solution parce que je ne l'ai pas. Voilà. Eh bien, les auditeurs, salut, salut. Nous avons fini ce soir en ce qui concerne la visite de nos discothèques respectives.
Mais restez avec nous.
Bien sûr, restez avec nous car c'est un autre passionné que nous allons présenter et à qui on va donner la parole. Et pas des moindres, hein, d'ailleurs, pour cette 13e émission. C'est Jérôme, alias Calcha, qui nous ouvre les portes de sa discothèque perso et de ses souvenirs. Puisque ceux qui nous écoutent connaissent un petit peu l'interview du Manche Disque et vous savez qu'on va piocher un petit peu dans les souvenirs d'enfance. Donc on écoute son interview et on vous dit un grand merci de nous avoir écoutés. Ouais. Rendez-vous dans 15 jours.
Retrouvez-nous sur le podcast, la page Facebook.
Exactement.
Et puis, dans 15 jours. Ouais.
Dans 15 jours, même heure, même onde, celle de Radio G. Ciao, ciao.
Bye bye.
Alors bonjour Calcha.
Bonjour.
Merci de te prêter à l'interview du Manche Disque. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter à nos auditeurs et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. etc.
Alors donc, je m'appelle Jérôme. Les gens me connaissent parfois un peu plus sous le nom de Calcha, au moins sur Angers. En fait, c'est le nom que j'utilise quand je passe des disques ou quand j'écris des articles. Donc, je fais différentes choses. En fait, donc ça fait à peu près 25 ans maintenant que je fais danser les gens, que je passe des disques à droite à gauche. En fait, j'ai commencé dans un bar qui s'appelait le Mescalibur en 95, qui est l'actuel Terroir Coco. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai passé dans plein d'endroits à Angers. J'ai fini aussi par écrire dans des webzines, puis dans de la presse spécialisée, notamment le magazine Vibration, en fait, qui est un magazine franco-suisse qui s'est arrêté en 2013. Tout ça, ça m'a amené aussi à travailler avec un label en Angleterre qui s'appelle Jazzman Records, où j'ai fait un peu l'enquêteur pour eux. J'ai écrit des notes de pochette de plusieurs rééditions sur un jazzman français qui s'appelle Jeff Gilson, et j'ai fait diverses petites tâches pour eux. Voilà, donc aujourd'hui je travaille aussi au Shabada, où je passe régulièrement de la musique après des concerts. C'est à peu près tout en fait. Et si, donc je fais aussi pas mal de conférences maintenant, en médiathèque, en milieu scolaire, en prison parfois, enfin un peu partout où on peut parler de musique.
Ok, eh bien écoute, je vais te poser la première question de l'interview qui concerne ton point de vue sur le retour du vinyle, en tout cas son retour à la mode.
Alors c'est une question assez compliquée parce que faut s'entendre sur ce qu'est un retour. Moi, pour moi, un retour, ça voudrait dire que le vinyle est parti et il est jamais vraiment parti. Il était peut-être moins sur le devant de la scène parce qu'il y avait des nouveaux supports qui étaient arrivés qui l'ont fait un peu passer pour has-been. D'abord la cassette qui était pas chère, qui était un moyen de s'échanger de la musique facilement quand on était jeune, etc. Et après le CD qui arrivait et qui du coup avait des airs de nouvelles technologies hyper performantes et qui faisait passer le vinyle pour un peu l'ancien monde. Mais il y avait toujours quand même des vinyles qui sortaient, il y avait toujours des artistes qui voulaient sortir leur musique en vinyle. Il y a des mouvements entiers qui se sont construits sur le vinyle, comme le hip-hop ou la techno. Donc ça n'avait jamais vraiment disparu. Maintenant, si c'est redevenu autant à la mode, je pense que c'est parce que dans un sens, on a été très très loin dans la dématérialisation, d'abord par les MP3, etc., et puis maintenant même par le streaming, et que il y a toujours une sorte de contrebalancement. Si on va très très loin dans un sens, il y a quelque chose qui va très très loin dans l'autre sens pour recréer un peu une sorte de balance naturelle. Et donc là où plein de gens ne veulent même plus de musique chez eux, ils veulent juste de la musique en ligne, et bien ceux qui veulent quelque chose, ils veulent vraiment un vrai objet et pas juste un CD qui fait 10-12 cm sur 10, et alors que le vinyle, voilà, c'est un 30-30, que c'est il y a un bel objet avec une pochette, c'est quelque chose qu'on doit manipuler, qui s'apprivoise un peu. Moi, ça me semble être un balancier un peu normal. Maintenant, de là à savoir combien de temps ça durera, c'est aussi un effet de mode. L'industrie du disque, elle refait exactement la même connerie qu'avec le CD, c'est-à-dire qu'elle se dit bah maintenant il y a un peu de thunes à se faire avec le vinyle, donc on en profite carrément, et il y a des rééditions qui sortent à 30-35 balles, alors que le disque, on le trouve encore dans son édition d'origine en occasion à moins de 10 balles. Je vois pas trop où est l'intérêt en fait. Surtout que c'est des disques qui sont déjà archi rentabilisés en fait. Aujourd'hui, fabriquer un disque de Led Zeppelin, ça coûte que la fabrication. Le disque, il est déjà rentabilisé depuis des décennies quoi. Donc pourquoi le mettre encore à ce prix-là en fait? Voilà, ça me pose plus de questions que ça, que je n'apporte de réponse en fait, ce retour du vinyle.
C'est intéressant. Alors, c'est vrai que le dématérialisé en rapport avec l'objet, ça peut ramener les personnes aussi à un certain nombre de souvenirs. C'est le côté un peu rétro aussi du vinyle. Est-ce que toi, à titre personnel, tu te souviens de ta première expérience d'écoute de disque vinyle?
Tout à fait. Alors, c'est un peu étrange parce que, justement, chez moi, on n'écoutait pas de musique, ou très très peu en tout cas. Ce qui peut paraître un peu paradoxal quand on voit aujourd'hui chez moi avec des disques partout. Mais on écoutait très très peu de choses. J'ai quelques souvenirs de cassettes d'ABBA dans la voiture, notamment ce qui m'a donné envie de parler anglais. En fait, j'avais l'impression de chanter en yaourt dans ma tête et puis de toujours retomber sur la bonne rime. Et je suis bon, en fait, c'est hyper facile de parler anglais, écoute, sans problème quoi. Mais vraiment sur vinyle, en fait, mon premier souvenir, c'est une compilation de musique de western en fait que j'ai même récupéré chez mes parents. Qui était une pauvre compile enregistrée par... C'était même pas les thèmes originaux, en fait, c'est rejoué par Mario Cavallero et son orchestre, donc autant dire que c'est pas son vrai nom, que c'était donc tous les grands thèmes, le Virginien, L'était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne, des choses comme ça. Et en fait, c'était le disque du dimanche, quoi. Je demandais tout le temps à mon père qu'il me mette ça, et donc il préparait le disque, il mettait la platine, enfin, il mettait sur la platine, moi je... J'écoutais toute la première face religieusement à côté en regardant la platine tourner. Ça avait un côté très hypnotique, je trouve. Et puis dès que c'était terminé, je fonçais le voir pour qu'il tourne le disque. Et voilà, j'écoutais ça quasiment tous les dimanches. C'est vraiment mon souvenir, mon premier souvenir musical, c'est ça, quoi.
Le rituel familial du dimanche, ouais, ce disque de western que tu as toujours, que tu as conservé.
Tout à fait.
Avec le stickers d'époque qui met 14,90 francs.
Voilà, peu plus de 2 euros aujourd'hui, comme 2-3 euros.
Et donc tu le réécoutes, ça t'arrive de le réécouter ou c'est vraiment pour
non,
le côté relique?
Je le réécoute pas parce qu'en fait la plupart des thèmes qui m'intéressaient je les ai aujourd'hui mais sur les enregistrements originaux et j'ai un peu peur d'écouter ça et de trouver ça super cheap en fait, donc je préfère rester avec mon souvenir voilà, comme il y avait le film du dimanche soir, moi c'était le disque du dimanche après-midi. Voilà, je préfère non, j'ai jamais vraiment réécouté en fait, mais voilà, j'avais des cow-boys sur ma tapisserie de chambre à coucher, j'ai des cow-boys là sur le truc et ça me va très bien comme ça, quoi.
Très bien, et à côté, j'aperçois un 45 tours de Madonna.
Exactement, alors ça c'est le premier disque que j'ai acheté, enfin que je l'ai même pas vraiment acheté, mais en fait, de la même manière que, donc je disais qu'on n'a jamais trop écouté de musique chez moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ma mère a eu cette idée. En fait, à l'adolescence, mes parents n'ont jamais voulu me donner d'argent de poche, mais... Elle m'avait dit, bah en fait, t'auras pas d'argent de poche, mais si tu veux, tu peux choisir un 45 tours par mois. Donc voilà, bah très bien. Finalement, je crois que j'ai démarré ma collectionnite un peu comme ça. Et comme ce disque-là, La Isla Bonita, s'est sorti en 87, j'avais 12 ans, c'est l'arrivée de M6, en fait, la nouvelle chaîne qui monte, et qui passait beaucoup, beaucoup de clips, parce qu'ils n'avaient pas tellement d'argent pour faire autre chose à l'époque. Et donc, je suis tombé sur le clip de La Isla Bonita, où Madonna est avec une grande robe fendue, et voilà, t'as 12 ans, t'as les hormones qui parlent, et là, je suis tombé fou amoureux, et de la chanson, et de Madonna.
Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à cette époque.
Ouais, je pense qu'en fait, elle a été quand même un détonateur chez pas mal de garçons de cette période-là. Et donc, voilà, en fait, j'ai dû demander ce disque. Enfin, en tout cas, c'est le premier souvenir que j'ai. C'est peut-être pas le premier disque que j'ai pris dans ce cadre-là, mais c'est le premier qui m'a vraiment marqué à ce point. D'ailleurs, je l'ai toujours. Je le réécoute encore de temps en temps. Même si c'est pas ma période préférée de Madonna, finalement je préfère le disque d'après, là où j'avais 14-15 ans. Je me souviens très très bien avoir acheté le 33 que j'ai toujours, qui s'appelle Like a Prayer, où il y a des super morceaux. En fait, il y a le morceau Like a Prayer qui est très très bien, mais il y a un morceau avec Prince qui s'appelle Love Song, et il y a le tout dernier morceau qui s'appelle Act of Contrition, où elle récite un passage de la Bible sur une musique hyper bruitiste avec des guitares presque à la Sonic Youth et tout. Et du coup, voilà, j'avais une vraie passion pour Madonna à cet âge-là. Ça s'est arrêté après Like a Prayer, en fait. J'ai plus vraiment suivi ce qu'elle faisait après, mais elle était importante pendant 2-3 ans de ma vie.
Ok, donc là on parle de deux disques, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on est chez toi au milieu de ta collection, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Est-ce que toi tu te considères comme un collectionneur de vinyle?
Alors j'ai un peu de mal avec ça, de la même manière que j'arrive pas vraiment à me définir comme DJ, sauf toi, voilà, quand il y a besoin de se vendre un peu dans une bureau pour un DJ set ou pour une conférence, mais dans l'absolu, je me considère pas comme DJ, je passe des disques, c'est tout, je les mixe pas, j'ai pas de technique, je suis un cupon là-dessus, quoi. Et donc de la même manière, je me sens pas collectionneur, parce que j'en connais des collectionneurs qui sont, enfin, que moi je considère comme des vrais collectionneurs, et je m'estime pas du tout être à ce niveau de pathologie, on va dire. Mmh. Où toi, moi je m'en fous d'avoir l'édition originale. Enfin, je dis ça, et encore, ça arrive pour certains trucs, je les ai. Il y a certains disques que j'ai en plusieurs exemplaires, parce que j'ai réussi à trouver l'édition originale, à les tout rincer, tout le disque qui est déchiré, etc. Mais bon, c'est cool de l'avoir quand même.
Ouais.
Donc j'ai un petit peu de ça, mais je pense pas être encore. Voilà, je suis pas un complétiste, je vais pas acheter tout d'un artiste parce que j'ai décidé que je devais tout avoir. Je peux avoir beaucoup de choses d'un artiste, mais pas forcément tout. Encore que c'est vrai que faudrait pas trop me brancher sur Gainsbourg, par exemple, peut-être. Ou... Voilà, mais non, j'ai encore du mal à me dire collectionneur.
Alors maintenant, là, on en arrive à la fin de l'interview et on va te demander de conclure l'émission avec le morceau de ton choix, issu de ta collection. Donc qu'est-ce que tu nous as choisi, Kalcha, pour ce soir ?
Alors autant dire que c'est pas la question que je préfère, que j'ai passé quelques nuits à me dire ça sera celui-là, ça sera celui-là, ça sera celui-là, ça sera celui-là. Et finalement, j'ai choisi un morceau sur lequel je termine de temps en temps mes DJ sets, parce que je trouve que c'est un morceau après lequel, en fait, il est difficile de passer quoi que ce soit. C'est un morceau de Nina Simone, qui est probablement mon artiste préféré, si ce n'est en tout cas une de mes artistes préférées. Et c'est un morceau qui s'appelle Baltimore, du disque du même nom. C'est sorti en 78 sur le label CTI. C'est pas le disque le plus connu de Nina Simone, mais ce morceau, il est très très surprenant, puisqu'en fait il y a des arrangements reggae. Baltimore, c'est une reprise d'un morceau de Randy Newman, mais qui ressemble pas du tout à la reprise qu'a fait Nina Simone, comme la plupart des reprises que fait Nina Simone. En fait, quand elle reprend la plupart de ses chansons, c'est des reprises, en fait, les plus grands tubes, que ce soit My Baby Just Cares For Me, Feeling Good, tous ces morceaux-là, Cinnamon, et tous ces morceaux-là, c'est des reprises, mais elle en fait des versions définitives qui deviennent ses morceaux à elle après, en fait. Et Baltimore, c'est ça, en fait. Elle fait une reprise de Randy Newman, mais sa version, elle est mieux que celle de Randy Newman. Elle est tellement bien que Sly et Robbie, la paire rythmique mythique du reggae, ils en font une reprise l'année d'après ou deux ans après pour un groupe qui s'appelle les Tamlins, et ils repompent presque note pour note tous les arrangements du morceau. Et donc là, voilà, il y a plein d'arrangements de cordes, c'est grandiloquent, c'est super beau. Je rêve d'entendre une reprise de ce morceau par Björk, je suis sûr qu'elle en fera un truc de complètement ouf. Mais voilà, Nina Simone, Baltimore, c'est vraiment un... Enfin, moi, ce morceau, il m'émeut au plus grand point à chaque fois.
Eh bien, un morceau reggae de Nina Simone et une émission du Manche Disque qui s'achève comme un DJ set de Kalcha. Merci beaucoup, Kalcha.
Merci à vous.
tree where the mountains hide. Never gonna come back here till the day I die.
Radio G 101.5 FM.